Bernard est en ligne avec nous après son... Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Bernard, vous habitez où ?
Alors, j'habite dans un petit village au nord de Jérusalem qui s'appelle Ofra.
Ah, Ofra, bah, c'est pas un petit village.
C'est plus un petit village, effectivement.
Oui, c'est un gros endroit qui se trouve pas loin de Bethel. Est-ce que vous pensez que les attentats comme ceux d'Ariel, qui sont des attentats très spécifiquement, qui ont une caractéristique particulière, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Malheureusement, il y a plusieurs catégories d'attentats, faut bien le dire. Il y a des attaques meurtrières, mais là, c'est spécial. Parce que c'est des gens qui travaillent dans les mêmes usines, dans les mêmes magasins, qui conduisent des fois les mêmes camions, et tout d'un coup, arrive un drame comme celui-ci, 3 morts, c'est très lourd. Est-ce que vous pensez que les Israéliens, les Palestiniens, les Juifs, les Arabes, on dit comme on veut, vont pouvoir continuer à vivre ensemble ou à côté dans cette partie du monde ?
D'abord, c'est déjà arrivé. C'est vrai que c'est une catégorie d'attentats, toujours particulière. Ce sont des gens qui travaillent avec vous au quotidien, soudain sortent un couteau et commencent à vous courir derrière pour vous assassiner. C'est vrai que c'est une catégorie d'attentats, mais qu'on a quand même connu assez en Israël. Et je peux vous dire la suite, oui, il y aura une suite et il y aura un vivre ensemble malgré tout, parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas de choix ici, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Les Palestiniens, les Arabes israéliens, etc. ont besoin de travailler au jour le jour. Le marché israélien a besoin de travailleurs. Et finalement, la plupart du temps, ça se passe bien jusqu'au moment où ça déraille. Alors le problème, c'est qu'effectivement, ces dérapages font en sorte qu'au bout d'un moment, il y a une animosité, il y a des choses qui s'accumulent, il y a une méfiance. Et même quand tu travailles main dans la main, des fois, oui, avec des Arabes israéliens, avec des travailleurs palestiniens, parce qu'ils travaillent dans le même boulot que toi et avec toi tous les jours, eh bien, il y a quand même une méfiance continue. Mais la méfiance, c'est pas possible d'en faire quelque chose et d'amener quelque part, puisque cette situation, personne ne va partir d'ici, personne ne va aller nulle part. C'est-à-dire, soit on va réussir à un moment donné à trouver une solution, soit on ne va pas en trouver, comme aujourd'hui, et donc la vie continue tôt ou tard. Elle peut s'arrêter des fois 2-3 jours, et puis ça va reprendre après, et comme d'habitude.
Comme d'habitude, ça veut dire qu'on... Excusez-moi d'être horrible. Ça veut dire qu'on attend le prochain attentat ?
Ça veut dire que même quand on bosse avec un type qui est ton collègue depuis 5 ans, 10 ans, ou quelqu'un qui vient faire des travaux chez toi, et ça arrive tout le temps, eh bien, tu le regardes en sachant qu'on peut boire un café maintenant ensemble et que dans 10 minutes, il peut sortir un couteau ou pas. Et donc, c'est une réalité avec laquelle soit on est prêt à vivre avec ça. Et encore une fois, vous dites, moi j'habite à Ofra, c'est vrai que c'est à mi-chemin entre Bethel et Ramallah. Et donc, on pourrait dire c'est spécifique au territoire, mais non. C'est pas spécifique au territoire parce que dans n'importe quel bureau, même à Tel Aviv, où un Arabe israélien va venir, mais ne serait-ce que peut-être que pour faire le ménage des fois, eh bien tout le monde va lui dire bonjour, tous les matins avec un grand sourire, et tout le monde en même temps regarde, parce que s'il sort un couteau pour étaler son fromage à midi, eh bien ça passe dans la tête de tout le monde que, attention, est-ce qu'il étale bien son fromage ou est-ce qu'il va me le mettre dans le dos ? C'est une réalité israélienne et en fait on vit ensemble et avec cette réalité depuis des dizaines d'années. Et donc il ne va rien se passer de spécifique après l'attentat d'Ofra, d'Ariel, excusez-moi, si ce n'est que ça rajoute encore une pierre à l'animosité un peu générale et en même temps ça en rajoute pas parce qu'on va pas commencer à regarder chaque Arabe israélien, chaque Palestinien qu'on va croiser comme si c'était un terroriste potentiel, sinon on pourrait pas vivre au jour le jour.
Alors je crois que c'est un peu différent si on parle d'Israël de l'autre côté de la ligne de 67, parce que d'abord, déjà, faut pas croire que les Juifs et les Arabes, ils vivent ensemble. Hein. Il y a des villes arabes, il y a des quartiers juifs, quartiers arabes, Yafo, par exemple, ou qui est présenté comme une ville commune. En fait, chacun, il a plus ou moins son quartier. Et c'est pareil à Lod.
Et alors, oui, après, mais on est ensemble tout le temps. Moi, j'ai travaillé alors, ici, voilà. Dans Yafo, je peux plus dire. On est ensemble tout le temps.
Mais c'est un peu différent, Dariel. C'est pas pareil. Il y a moins d'appréhension.
Encore une fois, c'est sûrement différent, et il y a moins d'appréhension, mais je rappelle, il y avait quelques années, je me rappelle d'un cas célèbre. Il y avait un type qui avait fait un attentat terrible à Tel Aviv, et en fait, on s'est aperçu qu'il avait travaillé dans le nord de Tel Aviv très longtemps chez des gens, il était un peu femme de ménage, un peu, et des fois, on lui confiait même les enfants pour 2 heures. C'est-à-dire, il y avait une très bonne ambiance, et les gens tombaient de très très haut en apprenant que c'était lui qui avait fait l'attentat, parce que des fois, oui, c'est la même personne avec qui vous avez travaillé 5 ans, main dans la main. Pendant l'intifada, je me rappelle de cas où un type avait travaillé 15 ans avec son patron avant de le poignarder pendant l'intifada. Et ça, c'est absolument imprévisible. Et ça, c'est pas une question de ligne verte ou pas de ligne verte. Ça peut arriver derrière la ligne verte, mais ça peut arriver à l'intérieur des frontières reconnues d'Israël aussi.
Mais comment vous expliquez ça? Parce que nous, à Paris, on a des mots pour ça. On appelle ça la radicalisation, par exemple. Quelqu'un, il se tourne la tête sur Internet. Mais là, effectivement, on parle quand même de comportements qui sont très particuliers. Y compris parmi, on va dire, les nationalistes palestiniens. Beaucoup, par exemple, vivent à Jenin, ne veulent pas parler aux Juifs. Et un jour, ils prennent une Kalachnikov et ils leur tirent dessus. Là, on parle vraiment de gens qui ont... je ne sais pas, cet ouvrier palestinien, depuis combien de temps il travaille dans l'usine? 5 ans, peut-être?
C'est très difficile à expliquer, mais d'un autre côté, on ne va pas faire comme dans l'histoire de Sarah Halimi, commencer à parler d'une bouffée délirante, etc.
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, on voit sur les vidéos, il a l'air tout à fait clair.
Non, c'est pas le cas. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive un jour à une conclusion qu'il faut qu'il fasse un acte fort et puis qu'il se motive ou qu'il est motivé par une cellule. Mais peu importe, ça revient presque au même. C'est-à-dire un changement radical de position parce que si tu es vraiment complètement radicalisé, effectivement, comme vous le dites, tu peux pas travailler au jour le jour avec des Israéliens comme si de rien n'était, leur serrer la main, boire un café et puis c'est pas possible. C'est-à-dire les vrais durs de durs ne travaillent pas avec les Israéliens au jour le jour et n'ont pas envie de les voir et de leur parler, de sympathiser, etc. Mais effectivement, il peut y avoir des cas où d'un coup, tu te radicalises, oui, pour une raison ou pour une autre, et donc ton quotidien te devient maintenant insupportable et tu dis je vais faire un acte, je vais faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est absolument imprévisible parce que vous ne pouvez pas prévoir que votre collègue avec lequel vous bossez tous les jours va vous planter un couteau dans le dos d'un coup. C'est complètement improbable. Il y a un moment où même si tu arrives très méfiant, il y a un moment où la barrière de méfiance tombe, simplement. Moi, je me rappelle, je travaillais à Jérusalem dans un endroit où il y avait deux Arabes de Beit Safafa qui étaient eux-mêmes les gardiens du bâtiment. Je faisais pas attention quand ils passaient dans mon dos en me disant, il y en a un qui va me planter un couteau dans le dos. J'y croyais pas une miette. Et donc, effectivement, quand ça arrive, ça pose des questions et beaucoup de questions sur cette possibilité justement de vivre, ensemble, de travailler ensemble. Et c'est une question qui n'est pas résolue actuellement en Israël. Et on le voit bien même dans les résultats des élections, etc. Vous allez avoir une extrême droite très forte actuellement, beaucoup d'attentes d'un certain public et en même temps, en parallèle à ces attentes, aussi pas mal de craintes en disant bon, pourvu non plus qu'il n'y ait pas d'exagération parce qu'on sait tous très bien que de toute façon, on est tous ici et que personne ne va partir.
Je vais vous raconter une anecdote et ça sera
mal.
Pardon ?
Oui, je vous écoute.
Je vais raconter une anecdote et ce sera ma dernière question. Un Israélien d'origine française, Israélien depuis 20 ans, il me dit ouais, tu sais, nous les Israéliens, entre nous, c'est spécial, on se reconnaît tout de suite, on se voit. À Disneyland, on voit tout de suite qui est israélien, on se parle, bon bref, comme des gens qui sont à l'étranger et qui sont contents de rencontrer des gens qui viennent de... Et il me dit, c'est un juif religieux de droite, et quand je vous dis religieux, c'est orthodoxe, et de droite. Et il me dit, même les Israéliens, même les Arabes, il me dit, même les Arabes, si, quand je les vois à Paris, il y en a un truc entre nous, on est israélien. C'est quand même incroyable.
Oui, non.
Ben oui.
Oui, non. Parce que au bout d'un moment, je suppose qu'il y a plein d'Arabes qui regardent les matchs de la sélection israélienne et qui sautent un but en disant oui.
Maccabi Haïfa. Quand ils sont venus à Paris, les supporters applaudissaient l'équipe israélienne contre l'équipe du PSG qui est soutenue par le Qatar. Maccabi Haïfa.
Ah ouais. Ouais, c'est quand même amusant, mais c'est si déjà on échange des anecdotes, une petite anecdote de 10 secondes. Gilad Shalit avait raconté qu'un jour, ses geôliers l'avaient appelé pour voir un match d'Hapoël Tel Aviv.
Non.
Et c'est des types du Hamas. Et il raconte qu'à un moment donné, il y a Zahavi qui met un but et les mecs sautent en l'air. Oui! Et il dit que pourquoi ils sautent en l'air? Et en fait, ils sautent en l'air parce que c'est régional. C'est quand même un but de la région, quoi. du coin. Et c'est très drôle comme anecdote, ça m'avait fait beaucoup rire parce que c'est exactement le sujet. C'est exactement le sujet, quoi. C'est-à-dire, c'est finalement, oui, on est en plein conflit, etc. Et en même temps, il y a beaucoup de points communs parce que, à force de vivre à côté, ben, que tu le veuilles ou non, il y a des interactions. Et oui, il va falloir vivre avec ça. Et même quand on est un habitant du Judée-Samarie comme moi, et de l'autre côté, un Palestinien du village, quelque part, ici, j'ai plus d'interactions avec des Palestiniens qu'un type qui milite à Shalom Arshav et qui habite au nord de Tel Aviv et qui n'en voit pas un dans sa journée. Quoi. Donc, quelque part, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai quand même beaucoup plus proche de certains Palestiniens que lui, bizarrement. Voilà.
Bernard Zanzouri à Ofra. Merci pour ces quelques mots. Bonsoir à vous.
Merci. Bonne soirée. Au revoir.
Gilberte est en ligne avec nous. Bonsoir, Gilberte.
Bonsoir.
Vous êtes où vous êtes située où, Gilberte?
Je suis dans le Gush Etzion, c'est les territoires de Judée.
C'est, on va dire, c'est à la porte de Jérusalem, non?
Oui, sud, porte sud de Jérusalem.
C'est un endroit qui est très connu pour toute une série de raisons. D'abord déjà, historiquement, c'était un yishuv très important. Avant la création de l'État d'Israël, il y a eu un massacre. Et vous êtes très nombreux à Gush Etzion. Vous êtes combien, si on peut, tous les Israéliens qui vivent à Gush Etzion dans tout, parce que c'est plein de petits villages les uns à côté des autres, ça fait combien de personnes à peu près?
Oui, en effet, je pense qu'en tout, on est à peu près 20-25 000 familles.
Familles?
Oui.
De religieux? Je vous parle avec le sourire, donc ça fait 100 000 personnes.
À peu près.
Est-ce que vous avez peur que la multiplication de ces attentats, comme celui d'Ariel, casse la possibilité de vivre avec les Palestiniens et finalement de vivre ensemble?
C'est une question à 1000 dollars, je dirais. Je pense qu'on ne vit pas vraiment ensemble, en fait. On est dans les mêmes endroits au même moment. On fréquente les mêmes pizzerias et les mêmes supermarchés, par dépit, par défaut, parce qu'on est tous les deux... Allez, je vais donner du crédit aux Arabes. On est tous les deux amoureux de notre terre. Eux veulent habiter là et nous aussi. Donc on se retrouve aux mêmes endroits. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais malheureusement, on a toujours en arrière-pensée, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou est-ce que c'est un terroriste? Et malheureusement, on pense souvent que bah, chaque Palestinien est un terroriste potentiel. Et ça fait très peur.
Ça ne va pas arranger vos affaires parce que le terroriste travaillait à Ariel, avait permis de travail, tout à fait connu de ses employeurs, et tout d'un coup il vient avec un couteau et il décide de poignarder tout le monde autour de lui.
Mais c'est pour ça, mais il y a eu beaucoup d'attentats qui ont été faits par des Arabes israéliens, donc on ne peut jamais savoir. C'est pour ça que je me dis que... C'est pour ça que je me dis que si on vit dans la peur et qu'on a peur de tout le monde, on ne fera plus jamais rien. Donc... Je sais pas. On continue à vivre comme on est. C'est très difficile, c'est très difficile. Et c'est même les gens qui nous disent « Est-ce que vous n'avez pas peur d'habiter là où vous habitez ?» Parce qu'il y a toujours des attentats. Et je leur réponds qu'à Jérusalem, il y a aussi énormément d'attentats. Et pourtant, les gens, ils habitent à Jérusalem. Et ils se posent pas la question « Est-ce qu'ils habitent à un endroit dangereux ou pas ?»
Mais Gush Etzion, c'est un endroit qui est... faut se souvenir que c'est là... où les trois jeunes adolescents avaient été enlevés, ils faisaient du stop.
Oui.
Et ils ont été laissés à Gush Etzion. Ils ont été pris en stop.
Oui, juste à côté de chez nous. Oui, malheureusement.
Ah oui, juste à côté de chez vous.
Oui.
Mais est-ce que vous voulez trouver une forme de vivre ensemble avec les Palestiniens ou est-ce que vous demandez une séparation?
Je ne veux pas parler au nom de tout le monde. Je n'ai pas demandé à mes voisins ce qu'ils en pensent. Moi, personnellement, je pense qu'une séparation serait plus dangereuse qu'autre chose, parce qu'à force de se séparer de l'ennemi, ben, on ne le connaît plus. Et là, on aura encore plus peur. Le jour où il y aura un Palestinien qu'on va croiser, ça va être « Oh là là, attention, des Palestiniens !» Alors que le fait de vivre ensemble, on les connaît, on les reconnaît aussi, on se reconnaît. Eux, ils savent qu'on est juifs, mais on sait qu'ils sont arabes. Et il y a une certaine... vous savez, j'ai des amis qui habitent Hebron, c'est encore plus dangereux que chez nous. Ils vivent en même temps avec les Arabes à Hebron, il n'y a pas du tout de séparation. Et ils me disent que ça se passe très bien. Alors oui, de temps en temps, il y a des attentats, pas plus qu'ailleurs. Et j'ai été choquée d'entendre ça. J'ai dit, comment ça se passe très bien?
Moi,
marchais dans
pas.
La rue. Bah,
à Hebron, j'y crois pas du tout.
À Hebron,
je peux vous dire, ceux qui habitent à Beth Hadassa, à Hebron, ça se passe pas du tout très bien avec les voisins. Pour le coup, ils leur parlent pas. Alors, c'est vrai qu'ils sont dans la ville. Mais alors, pour le coup, c'est pas comme Ariel. Ariel, il connaît le prénom du gars, il lui dit, tiens, assis-toi, ils boivent le café ensemble. On parle pas de la même situation.
Mais la question, alors je vous renvoie à la question, comme dirait Rabbi Jacob. Quand un juif vous pose une question, vous répondez par une autre question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si même les travailleurs honnêtes deviennent des terroristes, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas arrêter. Et on sait très bien que dans le bâtiment, les meilleurs travailleurs, ce sont les Arabes. Non seulement parce qu'ils prennent pas cher, mais en plus parce qu'ils savent quand même travailler dans le bâtiment. Mais donc, si on a plus ça, on fait comment?
Vous en parlez, vous, avec vos voisins arabes ou non? Chacun de son côté, chacun son bus.
Je n'ai pas vraiment des voisins arabes. Ah ouais. Non, je ne parle pas avec les Arabes, sauf s'ils viennent me faire des travaux chez moi. Alors là, oui. Et j'ai eu l'opportunité de voir que ce sont des gens très bien. Ça, c'est peut-être mal à dire, mais il y a un homme qui est venu nous faire des travaux dans la maison. Il était chef de chantier. Il avait toute une équipe d'Arabes. C'est un homme vraiment de bonne qualité. Un de ces jeunes nous avait volé quelque chose. Il est venu, il nous a remboursé sans demander rien. Et j'ai dit, c'est quand même un homme bien.
Ah oui, pourquoi vous dites ça fait mal au cœur? Tant mieux.
Non, mais parce que, bah voilà, alors à ce moment-là, c'est des gens bien, c'est des gens super, donc il n'y a pas de raison qu'on ne vive pas avec. Ouais. C'est ça le truc. C'est-à-dire, ou on décide que ce sont tous des terroristes et il faut les fuir, ou on décide que ça peut être aussi des gens bien qui eux-mêmes souffrent du terrorisme. Et à ce moment-là, on peut vivre avec eux.
Gilberte, à Gouchet-Sion, merci.
Merci beaucoup, Bernard. Bonsoir.
Bonsoir.